Cet épisode a été enregistré le 14 mai 2021. Il s'agit d'un épisode hors série, présenté grâce au soutien de Centraide Estrie dans le cadre du projet d'étude de cas sur la réponse des territoires de l'Estrie à la COVID-19.
Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar. Un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain.
Je vais vous présenter les principaux résultats de l'étude de façon très générale, en m'attardant un peu plus sur les impacts de la pandémie sur les populations les plus vulnérables. Je m'appelle Jessica Veillet, conseillère en résilience collective à l'Observatoire estrien du développement des communautés. En bref, pour réaliser l'étude, nous avons mené des entrevues individuelles dans chacun des 9 territoires de MRC de l'Estrie avec des gens du milieu de la santé municipale, scolaire, communautaire, du développement économique, du secteur culturel et de l'environnement également. Environ 85 entretiens ont été réalisés. Ça a mené à la rédaction de 9 portraits territoriaux préliminaires, soit un par territoire de MRC. Ensuite, 9 groupes de discussion ont été menés, soit un par territoire, pour valider, trianguler, faire parler les données et aller un peu plus loin dans l'analyse des portraits territoriaux préliminaires. Puis avec ça, ça a mené à la réalisation du portrait régional de la réponse intersectorielle à la COVID. L'intention principale du projet, c'est de pouvoir apprendre de cette crise et de pouvoir construire en mieux, en partageant les bons coups, en permettant de réfléchir ensemble sur les enjeux qui se dressent devant les communautés. Et disons-le, les enjeux sont très nombreux. On s'est donc intéressé aux actions collectives qui ont été mises en place, aux défis qui ont été rencontrés durant la réponse à la COVID, les bons coups, les fiertés, les forces et les ressources collectives des territoires, les innovations qui ont été déployées, et aussi même ce que la crise a amené de positif. Puis également, on a des actions qui ont été proposées par les acteurs et les actrices du développement des communautés qui permettent à l'Estrie d'être en mode solution. Vous pouvez retrouver tout ça dans le portrait régional de la réponse à la COVID. Les résultats de l'étude nous ont permis de regrouper les principales actions de la réponse intersectorielle en 5 grandes catégories. La première, se concerter et agir localement, par exemple la mise en place rapide des cellules de crise, les rencontres hebdomadaires de coordination à différents niveaux, au niveau local, régional, municipal, avec les organismes communautaires. Donc il y a eu plusieurs rencontres de coordination, comme par exemple le talk show estrien pour avoir une vision là, intersectorielle de la situation. Il y a les fonds d'urgence et les campagnes de sociofinancement qui ont été mises en place, les sondages pour connaître les besoins des intervenants. Ça, c'était dans la concertation et l'action locale. Ensuite, il y a eu le partage d'informations entre les acteurs locaux, donc pour savoir qui fait quoi, qui dit quoi à qui. Beaucoup de communication pour informer, mobiliser et rassurer la population, évidemment, et des actions pour prendre soin des populations les plus vulnérables. Dans cette catégorie-là, on retrouve des sondages pour connaître les besoins de la population, la traduction de l'information en plusieurs langues, des appels amicaux, les chaînes d'appel, les cafés Zoom pour rester en contact avec la population, la préparation de paniers alimentaires, l'organisation de l'aide pour la livraison. Il y a eu beaucoup de trousses de réconfort qui ont été distribuées aux familles, comprenant de la nourriture, des recettes simples à réaliser, des livres, du matériel artistique, des jeux, des idées pour se divertir à la maison, avec aussi des produits d'hygiène et de bien-être personnel, avec toujours de l'information sur les ressources locales disponibles. Il y a eu aussi des activités culturelles près des résidences pour personnes aînées. Pour ce qui est des principaux défis de la réponse, il y en a eu plusieurs, mais les plus récurrents ont été ou sont encore de gérer l'inconnu et de communiquer la bonne information puisque l'information évolue rapidement, l'épuisement des professionnels dû à l'adaptation continue, à la surcharge de travail, aux inquiétudes pour la population, les défis pour se coordonner les actions et les communications intersectorielles et intermunicipales. Parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs en jeu, beaucoup d'informations à traiter et d'interventions à coordonner. Il y avait également les fragilités ou les vulnérabilités présentes dans les milieux avant la pandémie, comme par exemple la faible couverture du réseau Internet sur le territoire. L'étude a également permis de faire ressortir les populations les plus impactées par la pandémie ou plutôt par les mesures socio-sanitaires et le contexte socio-sanitaire et économique qui découle de la pandémie. On remarque que les populations les plus à risque sont nombreuses, comme par exemple les familles et les proches aidants, dont les aidants des personnes vivant avec un handicap qui n'ont plus accès au répit. Les femmes pour qui les effets de la pandémie apparaissent plus importants dans plusieurs secteurs, par exemple pour l'école à distance ou l'isolement. Les membres des groupes de soutien comme les alcooliques anonymes, les femmes et les enfants victimes de violences conjugales manquent d'accès à un hébergement temporaire. Des élèves à risque de décrochage, les personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, les parents en télétravail qui manquent de ressources pour accompagner leurs enfants qui font l'école à la maison, les personnes vivant seules, les personnes en insertion socio-professionnelle qui n'avaient plus accès aux services, les anglophones et allophones pour qui il était difficile d'obtenir de l'information dans leur langue. Il y a aussi les nouveaux types de populations à risque, comme les personnes nouvellement sans emploi, qui se sentent dépourvues et qui ne sont pas nécessairement à l'aise de faire appel aux services communautaires, les jeunes professionnels en télétravail qu'il est difficile de rejoindre, les personnes aînées autonomes qui tout à coup sont devenues confinées. Il y a aussi la stigmatisation d'individus ou même des milieux de vie complets, comme des résidences, des quartiers, des municipalités, qui ont reçu un résultat de test positif ou qui sont reconnus comme des lieux d'éclosion. Par ailleurs, le confinement a créé beaucoup d'isolement, ce qui vient avec plusieurs défis. Sortir les gens de l'isolement sans pouvoir se rassembler et composer avec la fragilisation ou l'arrêt temporaire des comités bénévoles. Bref, la liste est longue. Vous pouvez retrouver plus d'informations dans le portrait régional complet qui est disponible sur le site de l'Observatoire estrien du développement des communautés. Pour terminer sur une bonne note, mentionnons que les participants de l'étude ont relevé ce qu'on pourrait appeler les impacts positifs de la COVID. Grâce, entre guillemets, à la COVID, il y a eu plus d'intersectorialité. Bon, nécessairement, pour répondre à la situation, les acteurs de la santé, du communautaire, les municipalités, le milieu des affaires ont eu à se coordonner et à échanger de façon plus régulière. Donc, ça a amené une meilleure connaissance mutuelle des partenaires, des relations plus harmonieuses, meilleure communication. Les nouveaux partenariats aussi qui en découlaient étaient plus concrets, donc axés sur l'action, plutôt que seulement juste la concertation. On était en mode action. Il semble avoir eu une prise de conscience, autant du grand public que des paliers gouvernementaux supérieurs, de l'importance du rôle des organismes communautaires. Il y a eu beaucoup d'adaptations aux technologies, comme par exemple le télétravail ou la vente en ligne. Et l'implication citoyenne a apparu plus importante dans la plupart des milieux. Ce qui ressort aussi de l'étude, ce sont les forces collectives sur lesquelles les intervenantes et les intervenants souhaitent s'appuyer pour les mois à venir pour le rétablissement des communautés. Quand on leur demandait sur les forces collectives sur lesquelles ils voulaient s'appuyer pour les prochains mois, ce qui ressortait beaucoup, c'était la capacité de créativité de la région, la capacité de concertation, l'entraide, le transfert de connaissances, le travail de proximité, l'expertise terrain, la connaissance du milieu, la capacité d'anticiper, tous les mécanismes de collaboration, d'intersectorialité, les partenariats. Aussi l'innovation, la proactivité, l'adaptation, la volonté d'action. Ce sont donc des forces collectives qui sont reconnues par les actrices et les acteurs locaux. Cela termine cet épisode hors série. Vous pouvez voir le portrait régional complet sur le site de l'Observatoire estrien du développement des communautés au www.oedc.qc.ca.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.